Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 7 consacré à Kino Taio 2013. Et pour parler de la 8e édition du Festival du film japonais contemporain, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Rostac, journaliste à ce film, également membre du jury presse de cette édition. Salut Mathieu.
Salut.
Bah merci de nous rejoindre et de répondre présent à notre invitation pour parler des films de Kino Taio.
Tout le plaisir est pour moi.
De nouveau d'ailleurs, parce qu'on en a largement débattu déjà. Et pour présenter Istasia, le seul membre de l'équipe ici présent ce soir, c'est Nicolas Lemerle. Salut Nicolas,
salut.
Comment ça va?
Salut.
Prêt à défendre les couleurs d'Istasia?
Bah oui, comme toujours.
Alors, le festival du cinéma, du film contemporain japonais de Kino Taio, pardon, s'est tenu à Paris du 3 au 21 décembre. Il a présenté 7 films en compétition et quelques autres dont on va parler hors compétition dans des sections classiques. Et vous aurez le plaisir de les revoir en province durant tout le mois de janvier. Le festival passe à Metz, à Strasbourg, à Cannes, à Le Canet et à Saint-Malo. Et tout d'abord, quoi de plus logique d'ouvrir le podcast sur le film d'ouverture qui est Wara no Tate, aka Shield of Straw, aka, bah, y a pas titre français parce qu'il va certainement pas sortir en France. Et en tout cas, c'est le dernier film de Miki Takahashi. Enfin, le dernier, il en a déjà terminé 2-3. Il y a The Outsider qui est en pré-production.
Ouais.
Et celui-ci, c'est donc le film dont vous avez entendu parler parce qu'il a été sifflé à Cannes. Mathieu, Nicolas, vous l'avez vu en ouverture à Kino Taio. Est-ce qu'il méritait les sifflets à Cannes et est-ce qu'il a été un peu mieux accueilli à Kino Taio, Mathieu?
Non, il méritait pas du tout les sifflets à Cannes. En toute honnêteté, moi je m'attendais à un film vraiment... Enfin, pas terrible, à partir du moment où j'avais entendu que du mal de ce film par rapport à la projection à Cannes. Et en fait, non, c'est pas un chef-d'œuvre, bien entendu, comme souvent avec Takashi Miike. C'est un film de commande qui a été exécuté de manière assez... assez propre et je trouve que l'idée de ce polar qui pendant les trois quarts du film est complètement amoral puisque l'histoire est quand même assez particulière, je trouve ça assez bien de se permettre de développer un film comme celui-ci en fait. Voilà. Après au niveau d'un point de vue formel, sur la réalisation, moi j'ai rien à redire par contre.
Alors, tout à fait honnêtement, si tu avais été à Cannes pendant la projection, tu ne l'aurais pas sifflé.
Non, je ne l'aurais pas sifflé.
Est-ce que tu serais allé jusqu'à applaudir, comme à la fin de la projection à Kino Taio?
Alors, j'aurais peut-être applaudi en réponse, en représailles au sifflet. Mais après, non, sinon, il ne méritait pas d'applaudissement. Non, ce n'est pas non plus le chef-d'œuvre.
Bah, il paraît qu'il y a eu quand même des débordements. Moi, je n'étais pas à cette projo, mais à Cannes, un spectateur s'est levé, donc journaliste, a priori, pour dire « retourne au Japon, vendre des sushis après la projection du film ». Donc on peut dire que ça a quand même été très très violent comme réception, quoi.
Et donc raciste.
Et raciste, oui, en plus.
Mais il y a eu quand même des applaudissements. Hein. Il y a eu, comme tu disais, tu aurais peut-être applaudi pour faire un contrepoint au sifflet, mais il y en a eu quand même qui ont applaudi, je crois, une petite partie.
Hein,
mais...
Oui, toujours. C'est quand même poli. Hein,
voilà, c'est pour ouais, sans doute. Mais...
Depuis les années 2000. Mais toi, Nicolas, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi parle le film? Et est-ce que tu partages l'enthousiasme modéré, on va dire, de Mathieu?
Le film, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de policiers qui a pour mission de transporter un criminel, un serial killer, d'un point A à un point B. Et le père d'une des victimes fait une offre de beaucoup d'argent pour faire tuer le serial killer. Voilà, donc ça part de là. Donc oui, donc ce pitch promet en fait un espèce de gros film d'action qui va aller à 100 à l'heure avec plein de rebondissements, plein de suspense. Et au final, c'est un vrai ballon de baudruche, c'est-à-dire que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle pendant une heure, et puis ça... Voilà, ça fait pchit, quoi. C'est-à-dire que le film part à 200 à l'heure, comme le pitch le promettait, ça part en Ferrari, puis ça finit en 4L, quoi. Okay. À la fin, la confrontation finale, qui est supposée être le climax du film, ben on se fait chier, quoi.
Bon, on va, dommage, alors, sur tous les films, comme les films vont être vus par nos auditeurs, peut-être en province, etc., nos auditeurs n'ont pas forcément eu la chance de les voir, on va éviter de spoiler, donc on vous promet d'ailleurs de ne pas raconter les fins, les fins de film pour une fois.
On n'a pas raconté
la fin. On n'a pas encore raconté. On y allait peut-être lentement, justement, en 4L, mais on ne l'a pas raconté. Effectivement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'avoir proposé en ouverture à Kinotayo d'ailleurs ?
Oui, moi je pense que c'est une bonne idée puisque ça permet d'avoir un film qui n'a pas son pareil dans le reste de la sélection, en fait, enfin dans le reste de la sélection mais de la programmation. On n'a rien vu de similaire dans la programmation de Kinotayo, mais il faut pas oublier que ce type de production au Japon existe, quoi. Et que quand même Kinotayo c'est censé être le festival du film japonais contemporain et que donc on est censé représenter tous les aspects et ça c'est un aspect de la production cinématographique japonaise quoi, donc là une sorte de production de polar ou de film de genre à la chaîne fait par là en l'occurrence NHK si je dis pas de bêtises puisque Miike est sous contrat avec NHK si je dis pas de bêtises,
c'est possible, voilà. On vérifiera,
mais en gros c'est ça a mérite d'exister, donc du coup c'était logique qu'on le présente et il pouvait exister que sous la forme d'un film un film d'ouverture ou un film de clôture.
Je l'aurais plus vu en clôture moi justement, ouais. C'est plus oui. Moi je suis d'avis en fait de les festivals c'est d'envoyer la sauce dès la projection de clôture d'ouverture. Et après de finir avec un film, même bon là c'est pas forcément un bon film, mais finir en plus avec un film un peu un gros actionneur ou même à Cannes ils devraient faire ça. Bah ils l'ont fait avec Zulu d'ailleurs.
Ils l'ont fait avec Zulu. Il y a 2 ans c'est Pirates des Caraïbes 3.
Voilà donc c'est bien de finir comme ça. Alors, à Deauville ils avaient mis The Thieves qui était le parfait film de clôture pour moi pour détendre un peu, et puis quand c'est un bon film c'est un plus quoi. Bon là c'est pas le cas.
On a décidé de pas trop parler de La Rosée des Cieux qui était le film de clôture et qui nous a tous un petit peu endormis, voilà, donc on va rester sur les films de la compétition et les films qui nous ont plu et qui nous ont plu par ailleurs, voilà. Je rajouterais effectivement, moi je suis plutôt d'avis que c'est plutôt un bon choix d'ouverture. Parce que le nom de Miike peut amener un public qui n'irait pas forcément voir les autres films. Ça reste un film d'action, donc effectivement, il est assez différent des autres films qu'on a vus en compétition. Et d'autant que la réputation que le film se traîne depuis Cannes a quand même pas mal refroidi les distributeurs français qui risquent pas de le sortir, y compris d'ailleurs les éditeurs DVD, qui sont moyennement motivés d'avoir un film qui a eu un accueil aussi misérable à Cannes dans leur catalogue. Donc une sortie française est très très compromise par tous ces éléments, et ça fait quand même plaisir de pouvoir le voir sur grand écran, même si je considère que c'est un film très mineur de Takashi Miike, comme pratiquement tous les Takashi Miike depuis au moins 5 ans. Voilà.
Donc, il faut oublier qu'il était, il avait de la série concurrence, puisque c'était le soir où Fred Keane était présent à la Cinémathèque, donc il n'y a pas grand monde qui est venu le voir.
Oui, en plus, ça peut être un public assez, assez proche de Fred Keane, à Cinémathèque, etc. Et alors, l'autre, il y avait quand même du monde à la séance d'ouverture. Ça a plutôt bien marché. L'autre film qui était un peu prestigieux et hors compétition, c'était Outrage Beyond de Takeshi Kitano, qui lui, par contre, a fait sale comble. Il me semble que vous l'avez vu à la projection à la Maison de la Culture du Japon, la première. Et il y avait beaucoup de monde. Je vais rapidement résumer le film et je vais vous laisser dire ce que vous en avez pensé. Outrage Beyond se passe 5 ans après Outrage et en gros rien n'a changé. De nouvelles têtes ont pris la relève des anciennes, mais elles continuent à tomber avec autant de vigueur. Voilà, donc c'est un résumé très succinct.
C'est bien résumé. Je trouve que ça résume bien le film.
Est-ce qu'au-delà de cette histoire qui est quand même minimaliste, le film vous a plu, Mathieu ?
Oui, moi j'ai eu l'impression de retrouver un peu la vigueur du Kitano des années 90, on va dire, à peu près. Puisque quand il était retourné au Polar avec Outrage, moi je me frottais les mains, mais en fait c'était un raté complet, c'était bâclé, on le sentait bien. Là, en l'occurrence, il a eu la possibilité de faire quelque chose de plus développé, de plus... il a eu la possibilité d'achever son projet, en fait, et on sent qu'il y a une sorte de maîtrise qui est très plaisante, et on n'a pas le côté je cède à la pression en fait, et donc du coup je livre un truc qui est bancal quoi.
Voilà. Et tu vois, enfin pour toi, il a fait vraiment Outrage sous la pression des producteurs et il s'est senti plus libre sur Outrage Beyond.
Ouais, Oui, selon moi, c'est, selon, bah, selon moi, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué, que, qu'il était, qu'il avait été un peu pressé en fait par les producteurs, notamment,
cas, outrage, ça
notamment pour qu'il soit présenté, si je dis pas de bêtises, à Cannes, voilà. Et donc du coup, on lui a demandé d'accélérer la cadence. Donc le montage n'était pas terminé. Enfin, il était bâclé, quoi.
Ouais, à Cannes notamment, où le film a été très très mal accueilli. Oui, aussi. Finalement, c'est bien, à Kinotaï, on voit tous les films japonais qui se font descendre à Cannes. Donc c'est une séance de rattrapage pour le cinéma japonais. Nicolas, est-ce que toi, t'as aimé le film?
Oh, moi, j'étais déjà pas convaincu par le premier, même si, bon, le côté, justement, il y avait un côté foutraque du fait que le montage était bâclé, qui faisait que ça donnait un espèce de film un peu what the fuck, quoi, où tout le monde trahissait tout le monde, où tout le monde butait tout le monde, enfin voilà, on savait pas qui était avec quoi, même à la fin. Et pour le coup, le deuxième, bah, c'est beaucoup plus maîtrisé, mais aussi beaucoup plus classique, quoi. C'est vraiment une histoire assez bateau, un clan qui en affronte un autre avec un troisième qui dirige, qui arbitre en fait, et puis c'est ça du début à la fin, quoi. C'est bon, c'est on s'ennuie un peu poliment, il y a quelques passages chapa, bah il y a quelques passages très qui font très Kitano, hein, son humour noir qui revient, qui sont sympas, par exemple sans trop spoiler, le mec qui se fait buter, enfin qui se fait assommer avec la balle de tennis qui lui revient dans la gueule à chaque fois, enfin voilà. Et mais sinon, je trouve que c'est trop classique, quoi. Enfin, j'arrive pas à retrouver le Kitano qui me plaisait dans les années 90, quoi. Même la fin des années 80.
Voilà. Pour le coup, j'ai l'impression qu'Outrage. Alors, le premier, je partage un peu vos réserves parce que je trouve le film un petit peu boiteux. Plus effectivement dans son montage, dans la construction de ses plans, dans sa réalisation. Autant je trouve le scénario très maîtrisé et là aussi classique. Enfin, c'est une guerre des gangs. Tout ce qu'il y a de plus classique dans Outrage. Alors peut-être revois-le, Nicolas, mais tu verras que tout est parfaitement logique, toutes les trahisons se tiennent, tous ont une raison pour trahir.
Oui,
pour
mais
trahir.
Je veux dire, c'est juste, ça m'a plu hein, dans Outrage, hein, de toutes ces trahisons. Mais ça se tient, mais je veux dire, c'est que ça, quoi. Dans le film, c'est exactement. Que des trahisons.
Ouais, mais
le film narratif se base au niveau des trahisons. Qui va trahir qui, quand, tu vois. Et alors que dans Outrage Beyond, c'est classique, quoi.
Dans Outrage, il y a une sorte de plaisir pervers à filmer des mises à mort aussi. C'était ce qui faisait un peu l'intérêt du film, c'est-à-dire à chaque fois les personnages utilisaient des ustensiles plus ou moins étranges pour tuer d'autres personnes.
Ce qu'on retrouve un peu dans
la scène chez le dentiste. Ouais. Ce qu'on retrouve un petit peu dans Outrage Beyond, justement, il y a la scène que t'as citée, Nicolas.
C'est la plus drôle, après les autres n'ont pas tellement marqué.
Et si ce n'est qu'effectivement, le film est beaucoup plus maîtrisé qu'Outrage, hein, et je trouve qu'on retrouve un peu de la mélancolie que Kitano avait complètement laissé tomber dans le premier Outrage, où il y avait un cynisme, effectivement, on me demande de filmer des mises à mort, je filme que ça. Ouais. Voilà, donc il le faisait avec un cynisme qui se retrouvait dans les personnages. Et alors, là, moi, la lecture que j'en fais, c'est aussi que cette mélancolie vient du fait qu'il a essayé de sortir du film de genre, du film de Yakuza, et on l'a vu avec sa trilogie introspective dans laquelle il revenait énormément là-dessus. Et finalement, il est obligé d'y revenir sans cesse, un peu exactement d'ailleurs comme le personnage d'Otomo, qui est censé être mort, qu'il a enterré, et par un coup du destin ou du scénario, hop, il revient à la vie, il veut faire absolument autre chose, et on lui demande bien sûr d'aller tuer des gens et de faire exactement ce qu'on attend de lui. Donc Kitano est un peu là-dedans. Ouais. Et il y a cette... voilà, alors c'est pas une mélancolie, mais c'est une tristesse qu'on sent dans le personnage et dans la mise en scène de Kitano à devoir toujours, en gros, servir la même soupe. Et il le fait très bien, enfin, il le fait aussi avec une application plus que dans Outrage, mais cette tristesse à être enfermé dans ce personnage-là se ressent dans le film et lui donne une autre dimension dans Outrage Beyond.
C'est pas faux, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais après le problème c'est que ça donne un film très sage au final. Enfin, tu parles de mise à mort, il y en a aussi quelques sympathiques dans le film, mais même au niveau de la mise en image, c'est presque hors champ, ou à part peut-être une ou deux décapitations, même quand ils utilisent la perceuse par exemple.
Tu veux du sang, voilà.
Je veux dire que dans Outrage, ils se lâchaient, quoi. T'avais du chant qui giclait sur les murs, t'avais la scène du dentiste. Alors que là, tu vois, la scène de la perteuse, tu lui mets un foulard, on voit rien, quoi. Donc finalement, c'est il se retient, quoi. On a l'impression qu'il se retient, on a l'impression qu'il a peut-être. Ouais, justement, tu parlais du fait que. Une espèce de tristesse ou de mélancolie par rapport à à sa condition de cinéaste, mais ouais, ça se ressent au final, mais bon, ça donne un film un peu terne, quoi.
Ouais, bah bien, les, réfléchir, si on regarde les classiques entre guillemets de Kitano, que sont Sonatine et Hanabi, t'as très peu de violence graphique.
Non, je suis d'accord, mais c'est pas les mêmes films non plus. Enfin, c'est-à-dire que moi, je m'attendais à une suite qui soit au même niveau à ce niveau-là par rapport à Outrage. Moi, je compare juste ces deux films-là. Ouais, après, ouais. Ces autres films, c'est différent.
Mais c'est en ça, moi, que j'avais justement retrouvé un peu le Kitano des débuts. C'était le côté, d'une part, la mélancolie, et d'autre part, ce côté justement suggéré de la violence qu'on sentait, mais qu'on ne voyait pas absolument full frontal avec...
Exactement, ouais. Moi je trouvais que c'était un petit peu cynique dans Outrage, même si j'ai bien aimé, et que là il le fait avec plus de sincérité, et effectivement c'est le hors-champ... On a vu le hors-champ est plus sincère justement que quand il montre des mises à mort...
On sent que c'est un mec qui est pas... C'est pas forcément un mec qui est très à l'aise avec la violence graphique, parce qu'il y en a dans certains de ses films, mais pas tout le temps. Donc je pense qu'il est plus à l'aise justement dans le côté suggéré, la subtilité, et là il retourne sur des bases saines et solides pour lui.
Le truc qui est tout à fait vrai effectivement, c'est par contre Outrage Beyond est un Yakuza Ega très classique, et la bonne idée de Kino Taiyo était d'accompagner cette projection d'Outrage Beyond d'une sélection de films classiques que Mathieu, tu as vu pour la plupart, pour quelques-uns. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et peut-être nous dire ceux que tu conseilles ou ceux que tu as aimés. Ouais.
Alors déjà, il faut savoir qu'il y avait une sélection qui était très hétéroclite, mais qui représentait bien le Yakuza Ega dans son ensemble, hein, puisqu'on a autant du Ninkyo Ega, donc le Yakuza chevaleresque, donc Yakuza de sabre, on va dire. Arme blanche, que du Jirotsuku Eiga, qui est le film de Yakuza réaliste, en fait, donc dans la rue, avec les mecs en costume, avec la pétoue sous le manteau, etc. Et donc on a ces deux parts-là, plus on a deux épisodes de La Pivoine Rouge, qui est le Yakuza Eiga de femmes. Voilà, donc on avait ces trois aspects qui étaient très proéminents à l'époque, donc c'est très bien, et surtout donc si on devait garder un ou deux Yakuza Ega qui étaient présents dans la sélection classique, moi je dirais qu'il y aurait donc le cimetière de la morale d'abord, qui est un peu le chant du cygne du Yakuza Ega, qui est réalisé par Fukasaku en 75, qui est tellement cynique qu'il amorce un peu comme la horde sauvage amorçait la fin du western en quelque sorte avec son cynisme. Le cimetière de la morale amorce la fin du Yakuza Ega avec des mecs qui n'ont plus aucune dignité, plus aucun honneur, et en fait c'est vraiment la fin annoncée du Yakuza Ega. Et le second c'est Homporelu qui lui pour le coup annonce le début en quelque sorte de cette espèce de mouvement de Fukasaku qui est la sécheresse de la rue, en fait le pavé de bitume, quoi, et le côté ghetto, on va dire, du Yakuza Ega, et surtout Homporelu, c'est 64, donc c'est très très vieux, et surtout on est en plein mouvement dans la nouvelle vague japonaise, et Fukasaku adapte les préceptes de la nouvelle vague japonaise, les adapte au Yakuza Ega, et donc ça donne un film d'une ambition formelle complètement folle, en fait. Donc si je devais garder cela, Donc si je devais garder un ou deux films, ce serait Le Cimetière de la Morale et Homporelu.
Ouais, ça tombe très bien parce que autant, alors il me semble que là les films de Yakuza étaient uniquement visibles à la Maison de la Culture du Japon. Néanmoins, comme il va y avoir une rétrospective Fukasaku on met à la Cinémathèque, ça sera l'occasion donc de les voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et alors de même, on va revenir sur les Ozu qui étaient présentés et qui vont être édités par Carlotta. Puisque le festival, aussi dans la section hommage, a présenté Fleur d'Équinoxe et Le Goût du Saké en février lors de leur sortie en vidéo, pour gagner un peu de temps et parler des films passionnants qu'il y avait en compétition juste après. Et pour finir avec tout ce qui était hors compétition, il y avait un dernier film qui était présenté, alors je ne sais pas si c'est une avant-première ou c'était juste hors compétition, qui était Oshin.
Je pense qu'il ne sortira jamais en France.
Et donc que tu as vu,
83-84 n'a jamais été distribué en France, et pourtant dans beaucoup de pays en Europe et ailleurs d'ailleurs, mais en France, peanuts. Mais non, j'ai vu le film, j'ai bien aimé, je trouve que c'est un beau film classique, peut-être un peu académique, mais avec de beaux personnages, très formellement assez jolis, avec une petite actrice, encore assez bluffante, comme on a l'habitude dans le cinéma japonais. Voilà, j'ai bien aimé.
Très bien, bah voilà, bah je crois qu'on a fait le tour de leur compétition. On va maintenant passer aux 7 films en compétition, tout de suite.